France Culture.
C'est pas l'heure.
C'est pas l'heure.
Mesdames et messieurs les premiers avocats généraux. Mesdames et messieurs les présidents de chambre. Monsieur le procureur général. Monsieur le premier président.
L'audience solennelle est ouverte. Je vous invite à vous asseoir. Monsieur le Premier ministre, votre présence aujourd'hui honore l'ensemble de l'institution judiciaire. Nous y voyons la marque de l'importance que vous accordez à la justice. Nous y sommes très sensibles. Monsieur le garde des Sceaux, dès les premiers jours qui ont suivi votre prise de fonction, vous avez souhaité rencontrer des représentants des diverses composantes de l'institution judiciaire, souvent en vous déplaçant vous-même.
Vous connaissez donc là, c'est la grande chambre de la Cour de cassation, un décor très impressionnant pour une salle qui est la chambre dans laquelle vont avoir lieu toutes les audiences solennelles de la Cour de cassation. Au début du mois de janvier, la Cour de cassation va rassembler ici l'ensemble des grands représentants des corps de l'État, des grandes institutions nationales, qu'elles soient politiques, administratives, judiciaires, religieuses, culturelles. Il peut y avoir jusqu'à 600 personnes ici. Et donc, la Cour de cassation, à travers la voix de son premier président, son procureur général, vont lancer l'année judiciaire, à l'occasion de cette audience qui est très ritualisée. Et à cette occasion-là, tous les magistrats revêtent la robe rouge et se positionnent en fonction de leur appartenance au siège au parquet général à un endroit précis de cette salle d'audience.
Voilà. Besoin de reconnaissance et de confiance. Je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à Monsieur le procureur général.
Merci Monsieur le Premier Président. Mesdames, Messieurs, être unis signifie donc pour notre institution agir.
Le Conseil d'État interdit, la Cour des comptes épingle. Ces expressions familières jalonnent régulièrement l'actualité et nous rappellent combien la voix des hautes juridictions est attendue pour traduire un idéal que l'on appelle État de droit. C'est notamment dans les hautes juridictions que les tensions de l État de droit convergent, que les attentes y sont les plus grandes et les critiques du pouvoir des juges y sont les plus vives. Qu'ils soient juges en dernier ressort ou qu'ils soient spécialisés, comme au Conseil constitutionnel ou la Cour des comptes, ces magistrats viennent clore un débat. En appliquant le droit, les juges des hautes juridictions l'interprètent, ils font jurisprudence et ils deviennent ainsi les gardiens de la raison juridique.
Grâce à eux que la justice tient, avance et agit sans relâche.
Les gardiens du droit, une série documentaire de Cyril Marchand et Véronique Samouilov. Épisode 1, juger le droit, la Cour de cassation.
C'est une salle qui est véritablement marquée par l'histoire et la symbolique.
Philippe Galanopoulos.
Vous avez sur les plafonds, dans les médaillons d'angle,
conservateur en chef,
des grandes figures de l'organisation judiciaire. Donc vous avez le dialogue des codificateurs. Vous voyez Napoléon Ier qui tient dans la main le code civil et qui dialogue, donc dans cette première diagonale, avec Justinien, le codificateur de l'Antiquité. Et dans l'autre diagonale, vous avez deux de nos grands rois. Vous avez d'un côté donc Charlemagne et de l'autre Louis IX, Saint-Louis. Et donc à la croisée de ces deux diagonales, vous avez le tableau central, la glorification de la loi. Donc vous voyez la symbolique, le discours fonctionne toujours sur cette idée de codification, de glorification de la loi, de rituel judiciaire, de rationalisation, de contrôle des mécanismes qui permettent à tous les citoyens d'être finalement jugés de la manière la plus juste et de la manière la plus uniforme. C'est ça finalement le rôle de la Cour de cassation, vigie, sentinelle de la loi et veiller à l'unité de la jurisprudence à l'échelle du territoire national.
La Cour de cassation siège dans l'enceinte du Palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité. Elle juge en dernier ressort des pourvois formés contre les arrêts rendus en cour d'appel à l'occasion d'un litige entre des personnes privées. Pascal Demier, professeur de droit privé, nous explique comment cette cour est devenue la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire.
Alors, si des juges sont institués en France, fondamentalement, c'est toujours pas pour faire de la jurisprudence, c'est pour appliquer la loi, pour trancher les litiges. Donc quand on porte son affaire devant un juge, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il applique les règles de droit pour donner une solution à des faits, à une situation de fait. Les juges qui font cela sont les juges du fond. C'est-à-dire qu'ils vont appliquer la loi et ils vont apprécier l'existence des faits, la gravité des faits, le montant d'une indemnisation. Tout ça sont des questions de faits. Les juges inférieurs font l'ensemble de ces missions. On les appelle juges du fond. C'est-à-dire qu'ils se prononcent sur les éléments de faits et sur l'application de la règle de droit.
Et on dit que la Cour de cassation, elle juge en droit. Qu'est-ce que ça signifie, ça ?
Dire que la Cour de cassation n'est que juge du droit, ou est seulement un juge du droit, c'est dire que devant elle, on ne pourra rediscuter que de la question de la bonne application ou pas de la règle de droit. On ne va pas pouvoir rediscuter devant elle de tous les éléments de fait. Si les juges ont estimé que tel fait était prouvé, on ne pourra pas rediscuter cette preuve. C'est considéré comme acquis. Et la Cour de cassation va seulement se prononcer sur la bonne application du droit à ces faits qu'on ne rediscute pas. C'est en cela qu'elle est juge du droit.
Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation.
On dit que la Cour de cassation juge en droit. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que cela signifie ?
Oui, c'est très simple. La Cour de cassation juge en droit, effectivement. Ça veut dire que lorsqu'un pourvoi est formé contre un arrêt d'une cour d'appel, la Cour de cassation ne peut pas remettre en question l'appréciation que les juges d'appel ont faite des faits. La Cour de cassation vérifie d'abord que la Cour d'appel a bien motivé sa décision, c'est-à-dire qu'elle a justifié la solution qu'elle a adoptée au regard des règles de droit et qu'elle a fait de ces règles de droit la bonne interprétation. Par exemple, est-ce qu'elle a bien interprété, si c'est en matière pénale, la notion de vol ou d'escroquerie, si c'est en matière civile, la notion de consentement à contrat, etc. Elle vérifie que les règles ont bien été interprétées par la Cour d'appel.
Dans certains courants de théorie du droit, on défend l'idée que l'acte clair n'existe pas. C'est-à-dire que dire qu'un texte est clair, c'est déjà l'interpréter.
Pascal Demier.
Il y a un exemple qui est très connu en théorie du droit. À l'entrée d'un parc, il y a un panneau qui indique que les véhicules sont interdits dans le parc. A priori, c'est un texte clair. A priori, c'est un texte clair. Donc si on demande à un juge ou à un juriste, est-ce qu'une voiture peut rentrer ? Quelle est la réponse ?
Il va dire non.
Il va dire non. Et c'est simple, c'est clair, le texte est clair. Si on lui demande si un camion peut rentrer, il va dire non, le texte est clair. Mais si on lui demande si une ambulance peut rentrer, est-ce que ce même texte, les véhicules sont interdits dans le parc, est-ce qu'il est clair pour la question de l'ambulance ? Est-ce qu'il est clair pour la question d'une poussette ? Vous voyez, il y a cet exemple qui souvent est pris en théorie du droit pour montrer, justement, la thèse selon laquelle un texte n'est jamais clair, pour montrer que le texte qui peut sembler le plus simple et le plus clair, en réalité confronté à certains cas, peut soudainement devenir un texte à interpréter. Voilà, c'est ce qui se passe devant les juges. Il y a des textes qui peuvent sembler très simples et très clairs et qui, un jour, parce qu'ils sont confrontés à un cas un peu atypique, un peu inhabituel, vont nécessiter une interprétation.
Quand le juge de cassation, à son tour, interprète le droit, est-ce qu'il le fait dans une méthode qui serait libre ou est-ce qu'il est au contraire tenu par des méthodes ?
C'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que la Cour de cassation utilise un certain nombre de méthodes, en effet. Par exemple, elle commence, et c'est la première méthode, et elle s'impose à elle, et elle se l'impose, qui est de regarder le texte et de voir si le sens du texte découle tout naturellement de son libellé.
Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation.
Parfois, ça n'est pas évident. Parfois, un libellé peut être sujet à interprétation. Dans ce cas-là, la Cour de cassation va essayer de comprendre ce qu'a voulu précisément le législateur lorsqu'il a voté cette loi. Donc, la Cour de cassation va regarder les travaux parlementaires, va regarder d'où vient ce texte, que ça résulte d'un amendement, qu'a voulu le rapporteur, est-ce que c'est bien cela qu'ont voulu les députés et les sénateurs. Tout ça, la Cour de cassation l'examine très attentivement. Quelquefois, ça ne suffit pas non plus. Donc, on va aussi regarder, pour interpréter ce texte, des textes qui utilisent les mêmes notions à d'autres endroits du même code ou d'un autre code pour qu'il y ait une cohérence dans l'interprétation qu'on donne d'un mot. La Cour de cassation va aussi tenir compte des évolutions de la société.
Il arrive qu'un texte n'ait plus beaucoup de sens par rapport à des évolutions qui se sont produites depuis l'époque où il a été adopté. Donc la Cour de cassation en tient compte. Va regarder aussi quels sont les effets concrets de telle ou telle interprétation. Donc ce sont différentes méthodes d'interprétation que la Cour utilise avec des règles qu'elle s'impose, qui est d'abord en premier lieu de faire respecter la volonté du législateur. Et donc il y a une sorte de hiérarchie, si vous voulez, des règles d'interprétation.
Une cour de cassation, une juridiction suprême qui vivrait dans une tour d'ivoire et qui ne serait pas capable de prendre en considération les évolutions sociales, en réalité, aboutirait à rendre la justice d'une façon désincarnée.
Patrice Pinozzi, avocat au Conseil.
Et je pense que c'est l'inverse exactement de ce que souhaite la Cour de cassation. La Cour de cassation cherche à être au cœur de sa mission de défense des libertés, de défense des droits, de défense des justiciables. Et à ce titre, elle a comme ambition d'être parfaitement synchrone avec ce qui peut être attendu d'elle et de ne pas être hors sol, mais bien d'être concrète, efficace et juste dans la manière dont elle rend ses décisions.
Voilà, et là, on se retrouve dans les couloirs. Voilà, donc là, on est le long du quai de l'horloge et on voit à travers ces vitraux la Seine qui coule le long du palais de justice. Voilà, et donc j'ouvre cette porte.
Monsieur le procureur général, la Cour vous remercie. Constate qu'il a été satisfait aux prescriptions du Code de l'organisation judiciaire, dit que du tout il sera dressé procès verbal pour être versé au rang des minutes du greffe et déclare l'audience solennelle de début d'année de la Cour de cassation levée. Je prie l'ensemble des participants de bien vouloir rester en place encore quelques instants afin de me permettre de raccompagner avec monsieur le procureur général.
Ici, c'est un lieu éminemment symbolique au sein du palais de justice et pour la Cour de cassation. C'est là finalement qu'est né le tribunal de cassation. Donc notre histoire a commencé ici, dans cette salle d'audience que vous voyez est vraiment magnifique. Vous avez un très beau décor boisé.
Philippe Galanopoulos.
Vous voyez tout le mobilier en bois, les chaises des magistrats. Vous avez sur la partie supérieure de ce décor boisé une tenture dorée qui a été rajoutée et qui rappelle que longtemps cette chambre s'est appelée la chambre dorée. Donc c'était la plus ancienne, la plus prestigieuse des cours d'Ancien Régime qui remonte au règne de Saint-Louis, donc au XIIIe siècle, et qui a été un lieu, une espèce de cœur battant de la justice d'Ancien Régime. Au moment de la Révolution française, quand on a voulu réorganiser le système judiciaire, on a placé évidemment au sommet de la pyramide judiciaire une nouvelle juridiction qui était le tribunal de cassation. Et ce tribunal de cassation, qui avait pour mission de veiller à la bonne application de la loi, à l'unité de la loi, a été installé ici. Et donc dans l'idée des révolutionnaires, des constituants, quand on a créé le tribunal de cassation en 1790, on l'a institué en lieu et place de cette ancienne cour de parlement, c'est-à-dire de la justice d'Ancien Régime, pour marquer une nouvelle ère. Les révolutionnaires avaient réfléchi à un autre système. Ils avaient pensé à un tribunal ambulant qui pourrait aller de part et d'autre dans le royaume de France, au plus près des cours et des tribunaux. Il y avait sans doute l'idée de contrôler les décisions de justice rendues dans ces différents territoires, mais il y avait déjà l'idée d'être au plus près des justiciables. Donc on s'était dit pourquoi pas une cour foraine, mais ça posait toutes sortes de problèmes matériels, déplacer les documentations, les livres, les magistrats. Donc finalement, le bon sens a voulu que l'on institua ce tribunal ici et sur les vestiges de la justice d'Ancien Régime. Et la Cour de cassation a été une réponse apportée aux citoyens pour une justice avec beaucoup plus de contrôle, puisque le tribunal de cassation doit veiller à ce que tous les justiciables soient jugés de la même manière sur l'ensemble du territoire national.
À l'époque, on est plutôt dans une période où on croit à une certaine perfection de la loi et où, à l'inverse, on a une grande défiance à l'égard des juges à cause d'abus qui avaient été commis pendant l'Ancien Régime. Et on institue une juridiction qui n'est pas là pour créer quoi que ce soit et surtout pas de la jurisprudence, qui au contraire est là pour contrôler la bonne application de la loi par les juges du fond et rien de plus. Donc ça, c'était, en schématisant, c'était l'idée au moment où on institue la Cour de cassation. Sauf que ce rôle initial, qui est vraiment un rôle rôle de surveillance, de contrôle de la bonne application de la loi par les juridictions inférieures va assez rapidement évoluer. D'abord parce que, par rapport à l'idée qui dominait à l'époque de son institution, d'abord parce qu'en fait la loi ne peut pas tout prévoir. On avait une image de la loi un petit peu parfaite, mais en réalité c'est faux, la loi ne peut pas tout prévoir, et d'ailleurs il serait pas forcément sain qu'elle tente de tout prévoir. Et c'est le rôle naturel du juge de venir adapter cette loi, la compléter, la préciser, la faire évoluer, puisque cette loi va aussi vieillir dans le temps, et plus elle va vieillir, plus de nouvelles questions vont se poser, plus les juges vont être confrontés à ces nouvelles questions et vont avoir l'obligation d'y répondre. Et pour y répondre, ils sont, dans certains cas, obligés de développer la règle de droit, de la faire évoluer, et c'est ça la jurisprudence. Donc ça va devenir assez visible vers la fin du 19e siècle, et comme la Cour de cassation n'avait pas été instituée pour faire ça, pour faire de la jurisprudence, pour développer les règles de droit, ce développement va s'accompagner tout au long du 20e siècle de débats assez nourris sur sa légitimité pour le faire, sur son rôle, sur l'éventuelle concurrence avec le législateur que ça créerait. Et après ces décennies de débats tout au long du XXe siècle, la période la plus récente, celle que l'on appelle souvent la réforme de la Cour de cassation, est une période dans laquelle la Cour de cassation assume enfin ce rôle de création de jurisprudence et a décidé d'adapter toutes ses méthodes, et notamment la façon dont elle motive ou la façon dont elle communique avec les justiciables, d'adapter ses méthodes à cette mission qu'elle considère aujourd'hui comme essentielle.
Peut-être que je vous montre cette porte. Donc en fait, là, on aboutit à un escalier en colimaçon qui mène au sous-sol, et en fait, on accède par cet escalier à la conciergerie, donc aux anciens dépôts du prisonnier. Peut-être aussi vous dire qu'ici a siégé le tribunal révolutionnaire. C'est également ici qu'a eu lieu donc la condamnation de Marie-Antoinette. Et les historiens ont débattu sur le fait que Marie-Antoinette soit passée par ici pour être présentée devant la justice révolutionnaire ou par la porte que vous voyez au fond.
La Cour de cassation est un acteur incontournable du combat judiciaire, et surtout c'est un acteur absolument nécessaire de la défense des libertés.
Patrice Pinozzi.
Qu'on comprenne un peu comment les choses fonctionnent, parce qu'effectivement les choses sont souvent obscures. Il existe dans notre droit un principe qu'on appelle la hiérarchie des normes. Toutes les règles dans notre droit ne sont pas équivalentes. Et la règle qui est la règle la plus importante dans notre droit, c'est la loi, parce qu'elle est votée par le Parlement et qu'elle est couverte de la légitimité de l'élection. Mais il existe, au-dessus de la loi, des règles qui sont garanties par soit des traités, comme la Convention européenne des droits de l'homme, soit la Constitution. Et ces règles qu'on appelle les libertés fondamentales, qui sont des droits qui sont attachés aux individus, eh bien, s'impose au législateur. Et la loi ne peut pas aller à l'encontre de ces libertés. Et la personne qui va être capable de faire cet arbitrage entre la loi et les libertés fondamentales, eh bien, c'est le juge. Et donc, c'est très concrètement la Cour de cassation.
Ce sont les États qui décident, eu égard à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, particulièrement eu égard au fait qu'on s'est rendu compte que les lois pouvaient porter des atteintes gravissimes aux droits et aux libertés des citoyens. Les États vont décider de proclamer et protéger les droits et libertés fondamentaux à un niveau supérieur à la loi. Donc c'est le niveau constitutionnel et c'est le niveau des conventions internationales et européenne. La Convention européenne des droits de l'homme, c'est une convention internationale à l'échelle d'une organisation régionale qui est le Conseil de l'Europe.
Mesdames, Messieurs,
1951.
Vous connaissez l'existence de la Déclaration universelle des droits de l'homme, solennellement adoptée par les Nations Unies.
Présentation de la Convention européenne des droits de l'homme par le juriste néerlandais Arnold Strucken.
Cette déclaration d'ONU ne constitue qu'une affirmation de principe. Une simple déclaration solennelle qui ne comporte pas de garantie effective dont chacun devrait se prévaloir. C'est une garantie de ce genre que la Convention du Conseil de l'Europe a voulu instituer en prévoyant la création de deux organes de contrôle, une Cour et une Commission. Le Conseil de l'Europe a cherché à mettre sur pied un mécanisme qui assurait la protection efficace des droits fondamentaux définis dans la Convention.
Article 2, droit à la vie. Article 3, interdiction de la torture.
Article 2, droit à la vie.
Article 4, article 6, droit à un procès équitable.
Interdiction de l'esclavage et du travail forcé.
Article 8, droit au respect de la vie privée et familiale.
Droit à un procès équitable.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
À ce moment-là, on est à la fin, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la Cour de cassation est encore très 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 loin de s'emparer de ces instruments. Il va y avoir une première étape dans les années 70. C'est la première fois que la question va se poser devant les juges nationaux de savoir s'ils pouvaient contrôler la conformité d'une loi nationale à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est le Conseil constitutionnel à qui on pose la question pour le contrôle de la loi IVG, la célèbre décision IVG de 75. On lui demande de contrôler la loi IVG par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme. Et il va se déclarer incompétent. Et comme il se déclare incompétent et qu'il faut qu'un juge contrôle cette conformité puisqu'elle est, c'est prévu par l'article 55 de la Constitution, ce sont les autres juridictions qui vont se trouver en charge de cette compétence. La Cour de cassation va très très vite se saisir de cette compétence la même année en 75 par l'arrêt Jacques Vabre. Ça, c'est le premier temps où la Cour de cassation intervient, c'est le moment où elle se reconnaît compétente pour contrôler la loi française par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme. Mais pendant plusieurs années, cette compétence, elle va rester relativement discrète. Elle existe, mais les avocats invoquent assez peu la Convention européenne des droits de l'homme. Il n'y a pas encore vraiment une culture, en fait, des droits et libertés fondamentaux à la Cour de cassation. On est plutôt dans une culture d'appliquer la loi, avec une loi éventuellement d'ordre public. On n'a pas beaucoup intégré. C'est dans les années 90 qu'on va voir l'utilisation de la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour de cassation devenir beaucoup plus importante, avec des condamnations assez spectaculaires qui ont entraîné des revirements de jurisprudence assez spectaculaires et qui vont faire prendre conscience du fait qu'il y a cette nouvelle protection, mais surtout que c'est un argument qu'on peut utiliser devant les juges, jusque devant la Cour de cassation, et qui permet d'obtenir de nouvelles jurisprudences assez importantes. Donc un texte qui date de 1950, une compétence du juge judiciaire qui date de 75, mais un déploiement qui commence en 90 et qui devient banal dans les années 2000. Et là encore, cette banalisation de décisions de la Cour de cassation en matière de droits et libertés fondamentaux vont la pousser, dans le cadre de sa réforme, à adapter là aussi ses méthodes, sa façon de décider, sa façon de juger à ce contentieux devenu très important des droits et libertés fondamentaux.
Article 9. Liberté de pensée, de conscience et de religion.
Article 10.
Article 11.
Liberté d'expression.
Liberté de réunion et d'association.
Liberté d'aller et venir.
Article 14.
Droit d'asile.
Interdiction de discrimination.
Liberté d'expression, des courants de pensée et d'opinion.
Liberté de culte.
Liberté d'association et de réunion.
Droit à la protection des données personnelles.
Liberté de conscience.
Liberté syndicale.
Environnement équilibré.
Liberté de manifestation.
Droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Je nous revois dans le salon où on attendait, quand on a reçu le communiqué avec Maître Spinozzi, de le lire, pas être sûr de comprendre parce que c'était un jargon. Je crois que c'est la deuxième fois où je t'ai vu pleurer, papa, et du coup commencer à comprendre que c'est positif, qu'on a gagné. C'est difficile d'appeler ça une vraie victoire parce qu'en effet, c'est 19 ans. À ce moment-là, on a connu que ce combat. On a connu notre famille assez définie, en fait, dans l'adversité, dans le fait d'avoir tout le temps à se justifier, tout le temps en guerre, en fait, tout le temps en guerre contre une instance de justice qui n'était pas juste.
Je suis Dominique Menson et je suis le papa de la famille Menson.
Moi, je suis Sylvie Menson. Je suis la maman de Fiorella et Valentina, deux filles jumelles qui ont maintenant 24 ans.
Et moi, je suis Fiorella Menson, la fille de Sylvie et Dominique Menson. Et ma sœur et moi, nous sommes nés le 25 octobre 2000 aux États-Unis, d'une gestation pour autrui.
Alors, on s'est rencontrés en 1997. Et rapidement, le problème de l'infertilité s'est posé, puisqu'on a découvert à ce moment-là que Sylvie était affectée d'un syndrome qui s'appelle le syndrome MRKH.
En fait, c'est une malformation congénitale qui fait qu'on est sans utérus, mais avec quand même des ovaires. Donc, possibilité de reproduction, mais évidemment, impossibilité de porter un enfant. Et donc, notre gynécologue, ma gynécologue, un jour a lâché il y a bien les mères porteuses, mais c'est interdit en France. Alors, nous, le mais, on l'a tout de suite. On s'est dit, mais ça n'existe pas. Et comme on allait souvent aux États-Unis, on a commencé à investiguer. Alors, c'est quand même un parcours du combattant, parce que à l'époque, entre deux tentatives, il fallait attendre au moins 6 mois, parce qu'il fallait coordonner les cycles de la femme qui est porte et le mien. Donc, c'était extrêmement compliqué à faire. Donc, on en était à la troisième, et franchement, on s'était dit que c'était la dernière. C'était tellement éreintant psychologiquement, financièrement aussi, il faut bien dire les choses.
Et la troisième, et celle qui a fonctionné, c'est une amie à nous qui a donné ses ovocytes. Et on s'était bien dit qu'on en parlerait à notre entourage que lorsque la grossesse serait largement confirmée et qu'on aurait passé le délai de 3 mois des risques de fausse couche. Mais quand on l'a dit, ça s'est globalement bien passé. Bon, vous avez toujours, comme dans les familles, vous avez un cousin qui vote le Front National. Bon, ben voilà, vous avez toujours l'exception. Et ben là, c'est pareil. En fait, les gens étaient contents pour nous. Et lorsqu'on explique la démarche, il n'y a pas d'ambiguïté.
Et quand on est rentré, on était rentré avec nos deux cousines, nos deux bébés. Évidemment, les gens savaient que, enfin, ils m'avaient vu avant. Et ils nous ont vu après arriver avec deux bébés. On a invité tous les gens de la rue à venir présenter les enfants. Tout le monde pensait qu'on les avait adoptés, mais non, on a expliqué, non, voilà ce qui s'est passé. Ils ont tous bien trouvé ça super.
Malheureusement, c'est comme une série télévisuelle avec beaucoup de rebondissements.
Moi, j'ai toujours ce mauvais souvenir de la police qui m'appelle en me disant « Vous êtes convoqué au commissariat, vous et votre mari, tel jour, à telle heure. » J'ai dit mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous le savez très bien. » Et on a été quasiment amené en garde à vue. Donc ça, pour moi, ça a été un traumatisme énorme. Ça a commencé comme ça. Tout de suite, peu de temps après notre retour avec nos filles.
On était convoqué en vue d'une mise en examen qui n'a jamais eu lieu, puisqu'en fait, la loi française n'avait pas été enfreinte par nous, puisque la loi française ne condamne d'une part que les intermédiaires, et d'autre part, il faut encore que les intermédiaires aient agi sur le sol français. Or, nous, toute notre procédure de GPA était à l'étranger. Donc, on s'est retrouvé embarqué dans une procédure ubuesque. Ça s'est terminé par un non-lieu parce que, évidemment, tout ce qui avait été tenté contre nous a été complètement infondé. Évidemment, le parquet qui s'était fait complètement désavouer au pénal a voulu rejouer quelque chose au civil. Donc, ils ont tenté une autre chose, c'était de transcrire dans les registres français l'état civil de nos enfants pour en demander l'annulation. Et là, dès que je dis ça, je comprends l'absurde, le côté incompréhensible de ça. Mais en tous les cas, ça a été le point de départ d'une bataille judiciaire qui a duré quand même pendant 19 ans.
Alors, il y avait un enjeu absolument déterminant dans le dossier des époux Menson. L'enjeu juridique, c'était la possibilité pour des couples, homosexuels ou hétérosexuels, hein, qui avaient eu recours à une gestation pour autrui, donc qui avaient fait appel à une mère porteuse à l'étranger, d'une façon parfaitement légale, dans le pays où la mère porteuse avait été contactée. Pour les époux Menson, c'était les États-Unis. Et donc, qui avait eu un enfant qui avait été déclaré devant les juridictions américaines comme étant leur enfant, aussi bien l'enfant de Monsieur Manson que l'enfant de Madame Manson. Et tout le problème était de savoir, lorsqu'il revenait en France, est-ce que cet état civil, qui était le seul qu'avait leur enfant, leurs enfants, puisque c'était d'ailleurs deux jumelles, est-ce que cet état civil pouvait être transcrit dans l'état civil français?
Et le premier jugement, donc, maintient la transcription de l'état civil étranger de nos enfants dans les registres français. Il la maintient au nom de l'intérêt de l'enfant. Et donc, on se sent préservé et notre famille protégée, mais on a bien conscience que ça va pas s'arrêter. Évidemment, le parquet fait appel et on repart donc devant la cour d'appel de Paris. Et du fait que on a fait quelque chose qui est parfaitement légal aux USA, elle maintient cette transcription. Et donc nos enfants ont encore des droits. Mais après, il y a cette pression, je dirais, politique de certains extrémistes, et on se retrouve devant la Cour de cassation en 2008, et là, la Cour de cassation, elle sort à des arguments qui n'existent pas sur des principes essentiels du droit français, qui ne sont même pas écrits dans le droit français. Enfin, elle fait toute une sorte de justificatif pour justifier justement l'impensable, qui est donc d'annuler l'état civil français de nos filles. Et donc, c'est ce drame-là. Et...
C'est vraiment, je vous assène la sentence, voilà. Vous avez fait ça, vous n'auriez pas dû, vous êtes puni, c'est bien fait pour vous. Voilà. Et du coup, je me suis mise à crier, à hurler.
Nous nous sommes rencontrés au moment où la Cour de cassation venait de leur donner tort. Donc, je n'ai pas été au début leur avocat devant la Cour de cassation. Ils sont venus me voir une fois qu'ils avaient perdu devant la Cour de cassation. Et donc, comme on le dit, épuisé toutes les voies de recours. Ils avaient été au bout de ce qu'ils pouvaient faire, en tout cas en France. Et ils sont venus me voir parce que, évidemment, ils envisageaient de saisir la Cour européenne des droits de l'homme et pour préparer cette nouvelle action que nous avons engagé ensemble.
On était devant la Cour européenne avec Maître Patrice Pinozzi, et la Cour européenne s'est prononcée en 2014 et elle nous a bien évidemment donné raison et elle a condamné la France.
Et donc cette condamnation de la France, qui est intervenue en 2014, elle a été évidemment déterminante, puisque elle a permis, au nom des libertés fondamentales, à tout enfant, et donc pas simplement aux époux Manson, mais aux enfants Manson, mais à tout enfant issu d'une GPA pratiquée à l'étranger, de pouvoir faire établir son lien de filiation, et ce, aussi bien en France que dans tous les pays du Conseil de l'Europe, puisque la décision qui a été rendue était une condamnation de la France, mais elle fait jurisprudence, elle a vocation à être répétée, reprise, pour les autres pays en Europe. Et à partir de ce moment-là, évidemment, eh bien, le droit va changer. C'est-à-dire que les solutions qui étaient les solutions françaises, les décisions qui avaient été rendues par la Cour de cassation française vont nécessairement devoir se renverser pour pouvoir être en adéquation avec la décision qui avait été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais il y a plusieurs manières d'établir la filiation en France. Il peut y avoir évidemment la transcription de l'état civil en tant que tel, mais il peut y avoir aussi la procédure d'adoption. Pour Monsieur Manson, qui était le père biologique, puisque c'était son sperme qui avait été utilisé, très vite, il a fallu reconnaître la transcription et ne pas imposer une fiction sur la fiction, qui aurait été de dire, en fait, on va demander au père biologique de passer par une procédure d'adoption. Cela aurait été complètement absurde.
Dès le départ, on est un couple solidaire, et je n'avais jamais accepter la moindre démarche qui aurait traité différemment ma femme, puisqu'on était un couple solidaire, tous les deux responsables de ce projet, et je ne supportais pas qu'elle puisse être discriminée.
C'est toujours la mère qui était contestée, toujours. Toujours la faute de la femme, en fait. C'est toujours elle, c'est la triple peine, elle est infertile, donc c'est à cause d'elle. Elle se sent responsable de ne pas avoir pu léguer son patrimoine génétique. et elle se sent responsable, et on lui a fait ressentir responsable de ne pas avoir pu accoucher, de ne pas être capable d'accoucher, ce genre de choses.
Au fond, l'intérêt de l'enfant, tout le monde est d'accord pour considérer que c'est un impératif. Tout le monde. Et en France, devant les juridictions françaises en tout cas, après il y a des débats dans la société dans lesquels je ne vais pas entrer, mais devant les juridictions françaises, personne ne défend le droit à pouvoir pratiquer la GPA en France.
Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation.
La question qui se pose, c'est lorsqu'un enfant est né d'une GPA pratiquée de manière légale à l'étranger, donc dans un pays où la GPA est autorisée. Que faut-il faire par rapport à la reconnaissance de la filiation de cet enfant en France ? Et là, vous avez deux positions, mais les deux positions se réclament de l'intérêt de l'enfant. C'est ça qui est intéressant. Vous avez une première position qui dit « il va falloir dissuader les gens de contourner la loi française en allant pratiquer une GPA à l'étranger, et la meilleure façon de les dissuader, c'est de ne pas reconnaître ensuite en France la filiation établie à l'étranger ». C'est en quelque sorte un argument de prévention, l'intérêt de l'enfant en général à ne pas naître plutôt que de naître par une GPA. Et puis vous avez ceux qui disent, c'est très bien, mais une fois que l'enfant est né, l'intérêt particulier de cet enfant, c'est qu'on reconnaisse sa filiation en France. Et donc, ces gens-là, encore une fois, ne défendent pas la possibilité de faire des GPA en France, mais défendent l'intérêt de l'enfant une fois qu'il est né. Et là, c'est entre ces deux grands impératifs que la Cour de cassation a dû choisir, et elle l'a fait comme elle le fait toujours, de manière évolutive. Dans un premier temps, elle a interdit totalement la transcription à l'état civil français des filiations résultant de l'état civil dans un pays étranger. Et puis petit à petit, elle a assoupli sa position à la suite d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, en considérant que cette transcription devait d'abord avoir lieu, en tout cas, à tout le moins, à l'égard du père d'intention lorsqu'il s'agit du père biologique. Et puis ensuite, ça a été étendu à la mère d'intention. Voilà. Mais sans que c'est une position qui est assez nuancée, qui a été évolutive et qui se fait aussi en concertation avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Il y a plein d'horloges ici. Alors le temps est partout ici. Alors ici, vous avez en fait une horloge astrologique avec les 12 signes du zodiaque et deux allégories, l'une qui représente le jour et la nuit, l'une qui a les yeux fermés, l'une qui a les yeux ouverts, et qui indique de jour comme de nuit, la justice veille. Donc il y a toute une symbolique aussi du temps qui passe, du temps long qui passe, et de la nécessaire pérennité de l'institution judiciaire. Veiller, effectivement, à ce qu'à travers le temps, l'institution judiciaire fonctionne et rende les décisions au service du peuple. Voilà.
Les époux Menson ont été d'une extrême résilience. Ils ont pu enfin obtenir satisfaction, ils ont pu obtenir la transcription définitive de l'état civil de leur fille en droit français, alors que leurs deux jumelles étaient majeures. Donc il a fallu plus de 18 ans, en réalité, pour que ce combat soit gagné. Ça a été le combat d'une vie pour les Menson.
Bonsoir à tous. Nos enfants ne sont plus des fantômes, mais nos enfants légalement parlant. La justice vient donc de rendre une décision sur mesure pour les époux Menson, Sylvie et Dominique, dont les deux filles, Fiorella et Valentina, sont nées d'une mère porteuse il y a 19 ans en Californie. Ils demandaient depuis des années la transcription
France Inter,
en droit
2019.
Ça signifie d'abord nos filles peuvent enfin nous appeler maman. Bon, elles s'en privaient pas avant, c'est vrai. On peut respirer, quoi. On va pouvoir passer à autre chose.
Oui, ils sont très émus, les quatre Menson, en sortant de la Cour de cassation. Fiorella.
C'est enfin marqué sur le papier qu'on a des parents, et du coup, c'est un énorme soulagement pour nous.
On est très très bien, on est très normal, et on est comme les autres.
Alors, il est difficile pour un particulier d'imaginer, effectivement, voir son dossier arriver
Yora Israël,
dans la Cour de cassation, et ce pour plusieurs raisons.
Sociologue.
D'abord parce qu'il ne sait pas forcément que ces juridictions existent dans un premier temps. Ensuite parce que s'il souhaite aller jusque-là, il y a à la fois des dimensions procédurales qui sont requises. Par exemple, pour faire appel, il faut avoir perdu. Donc s'il gagne à un moment donné, il ne pourra pas faire appel. Et puis, troisième question, c'est il faut effectivement avoir des ressources parce que ça a un coût, ça a déjà un coût d'avoir un avocat en première instance, en appel, et évidemment encore plus pour aller en cassation.
Il faut que le dossier soit passé à travers d'ores et déjà deux instances, la première instance, le tribunal, puis il y a eu un appel, une cour d'appel, et c'est à ce moment-là seulement que dans le cadre d'un pourvoi en cassation, on va arriver devant la cour de cassation ou le Conseil d'État. Alors ce qui est vrai, c'est que l'avocat au Conseil d'État et à la cour de cassation, il intervient en général à la fin du litige. Alors, l'avocat au Conseil et l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, c'est un avocat particulier qui intervient devant les cours suprêmes, donc devant le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction en droit administratif, donc pour les litiges contre l'État, devant la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction du droit privé, et donc tous les litiges qui peuvent exister entre deux particuliers ou contre une condamnation pénale. Et à ce titre, nous avons un monopole de représentation, c'est-à-dire que votre avocat habituel, lorsqu'il arrive devant la Cour de cassation ou devant le Conseil d'État, doit se retourner vers un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui va reprendre le dossier. Et donc, à ce titre, nous sommes des avocats dont l'exercice professionnel se déroule devant les cours suprêmes.
Les avocats au Conseil, ce sont des officiers ministériels. Hein. Ce n'est pas une profession libérale comme la profession d'avocat à la Cour. Et cette fonction d'officier ministériel, elle va avec le fait d'être chargé, en quelque sorte, de faire un filtre pour que tous les contentieux ne se retrouve pas devant la Cour de cassation et le Conseil d'État, qui ne serait pas en mesure de juger un volume trop important. Et donc, cette fonction de filtre, c'est-à-dire de participation à la régulation de l'ensemble, elle fait qu'ils ne sont pas censés, justement, accepter des dossiers dans lesquels la probabilité de gagner serait trop faible. Or, ils le font parfois quand même, lorsqu'il y a des enjeux politiques qui méritent que cette question soit posée au niveau de la Cour, même s'ils anticipent que la réponse sera négative. D'abord parce que la réponse négative, elle peut être le support d'une poursuite d'une mobilisation en se retournant vers le législateur pour que la loi soit changée, ou parce que une décision négative peut être un marchepied vers le recours à des juridictions supranationales, comme la Cour européenne des droits de l'homme par exemple, pour laquelle il faut avoir épuisé tous les recours au niveau national avant de pouvoir s'y rendre. Au-delà de ces difficultés pratique, tout seul, c'est très difficile de trouver la motivation pour poursuivre. Donc, il faut avoir souvent soit un environnement mobilisé particulièrement présent, soit le plus souvent, en fait, des organisations qui peuvent être des associations, des groupes de soutien qui peuvent accompagner la personne à la fois moralement, parce que c'est des luttes très longues, et aussi pour trouver les bons soutiens juridiques et les bons professionnels pour l'accompagner dans ce qui peut être parfois un parcours du combattant quand ça dure des années et des années.
On a créé notre propre association, on a créé un groupe d'experts autour de nous qui nous ont...
Sylvie Menson.
Qui nous ont rejoints. Au début, il y avait Elisabeth Badinter, il y avait Geneviève Delézy, il y avait Claude Sureau, qui était l'ancien président du comité d'éthique. On a regroupé autour de nous des juristes, des philosophes. On s'est retrouvés comme ça, rejoints par des tas de gens, des féministes, donc de toutes les disciplines. Ils ont, eux, rejoint le combat plus côté politique, en fait. Et évidemment, pour l'ouverture d'un débat sur la GPA.
La défense des libertés, elle passe par la capacité du juge à avoir dans un dossier individuel une violation des libertés fondamentales, et ce, indifféremment en réalité de ce que cette personne soit puissant ou misérable, soit assistée ou seule, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient ni une défense particulièrement développée, ni une assistance particulièrement importante. Donc, c'est tout le mérite des libertés fondamentales. Les juges, en tout cas, n'entrent pas dans des logiques de rapport de force, ne sont pas impressionnés par les collectifs. En revanche, Ce qui est évidemment déterminant, c'est la capacité des justiciables à aller jusqu'au bout. Il faut beaucoup de force et peut-être un peu d'argent aussi pour pouvoir mener des combats judiciaires.
Donc on redescend la galerie des bustes. On passe devant un panneau qui représente l'ensemble des premiers présidents de la Cour de cassation depuis l'origine du tribunal de cassation jusqu'au dernier premier président et première présidente de la Cour de cassation. Et donc aujourd'hui, Christophe Soulard qui est le premier président qui aura donc son portrait à l'issue de son mandat. Voilà.
Est-ce que vous pourriez décrire cette robe qui est assez étonnante? Elle ne ressemble pas tout à fait à l'idée qu'on se fait d'une robe de magistrat. C'est-à-dire qu'il y a une hermine qui est très proéminente, une hermine blanche, qui tombe en dessous des épaules.
Alors en fait, il faut comprendre que dans les audiences ordinaires à la Cour de cassation, mais dans d'autres juridictions, on porte la robe noire. La robe noire, c'est la robe du juge. Mais à la Cour de cassation, il y a des moments particuliers dans l'organisation judiciaire, notamment les audiences solennelles, où les magistrats vont revêtir la robe solennelle. Et c'est une robe qui est codifiée. C'est, si vous voulez, une robe qui, dans l'Ancien Régime, avait une signification. Puisque c'est le roi qui rend la justice, au nom de Dieu, dans l'Ancien Régime. Et comme le roi ne peut pas juger tout le temps, tout le monde, partout, il est obligé de déléguer son pouvoir de justice à des officiers qui sont des magistrats. Symboliquement, il remet sa robe aux magistrats qui vont juger à sa place. C'est ça la symbolique. Et comme dans le Moyen-Âge, les robes royales étaient rouges la plupart du temps, donc on remettait la robe rouge aux magistrats. Vous comprenez la symbolique. Et pour les audiences solennelles, vous avez l'hermine. Et vous pouvez effectivement, à l'occasion des audiences solennelles, également mettre vos médailles, vos décorations. C'est le cas pour certains de ces magistrats, en fonction des décorations qu'ils ont reçues. Voilà. Donc ici, vous avez sur la partie gauche une salle d'audience. Donc on va passer des battants en bois, des portes. On est dans un petit couloir. Et là, donc on arrive en salle d'audience.
Dans l'affaire Manson, on est sur une affaire très, 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 très exceptionnelle. Il ne faudrait surtout pas croire que toutes les affaires devant la Cour de cassation ont un côté aussi hors norme que l'affaire Manson, puisqu'il y a quand même plusieurs arrêts de la Cour de cassation. Il y a plusieurs arrêts d'assemblée plénière de la Cour de cassation.
Dans l'ensemble, est-ce que la Cour de cassation, c'est un juge de l'exceptionnel qui doit arbitrer des grandes tensions qui traversent tout le système juridique, ou est-ce que c'est... finalement aussi un juge du litige quotidien.
Alors c'est un juge du litige quotidien parce que effectivement on est sur revenu à 20 000 pourvois nouveaux par an, mais sur 3 millions de décisions en France. Donc voilà, c'est pas quand même pas toute la justice du quotidien qui remonte à la Cour de cassation. Mais le fait est que la Cour de cassation l'année dernière a été saisie d'environ 20 000 nouveaux pourvois et très clairement il n'y a pas 20 000 nouvelles jurisprudences. Et heureusement, il y a quelques dizaines de nouvelles jurisprudences, donc de nouvelles décisions de principe qui font évoluer le droit à partir de ces 20 000 nouveaux pourvois. Donc très clairement, on voit que le rôle de la Cour de cassation n'est pas seulement de se prononcer sur des grandes questions de principe pour le droit en général ou parce qu'elles mettent en cause une question grave pour les droits et libertés fondamentaux. La Cour de cassation a aussi gardé, et quantitativement c'est beaucoup plus important que les questions de principe, a aussi gardé son rôle initial. Elle est aussi là pour contrôler que les juges du fond ont bien appliqué la loi.
Donc ici, c'est la chambre commerciale donc qui va traiter essentiellement des affaires du commerce, droit des obligations, de la procédure, etc., etc. Voilà. Il y a une première chambre civile, une deuxième chambre civile, une troisième chambre civile, une chambre commerciale, là où nous nous trouvons, et une chambre sociale. Ce sont des organisations en fonction des contentieux. L'idée qu'on est à la Cour de cassation, qu'on ne va pas juger le fond des affaires, mais les questions de droit et de procédure. Il faut donc organiser les chambres pour avoir finalement des spécialistes des matières de contentieux. Il y a eu vraiment une judiciarisation de la vie sociale, commerciale, française. Et évidemment, la Cour de cassation étant placée au sommet, elle a dû aussi mécaniquement répondre à ces enjeux-là. Il y avait, à la création du tribunal de cassation et pendant quasiment un siècle, une cinquantaine de magistrats à la Cour, trois chambres. Et la Cour de cassation, pendant un siècle, jugeait entre 1500 et 2000 affaires par an. Aujourd'hui, vous voyez, on passe de 50 magistrats à 300, de 3 chambres à 6 chambres, et de 1500, 2000 à 15 000, 20 000 à faire. C'est vous dire l'inflation judiciaire qu'il y a eu. Voilà, c'est un petit peu cela qui s'écrit à travers le nom et les activités de ces différentes chambres, qui a peut-être d'ailleurs évolué à l'avenir. Peut-être qu'il y aura une création d'une septième chambre ou une autre organisation. L'idée, c'est que la Cour s'adapte aux besoins et essaie de répondre dans un temps raisonnable.
Mesdames et messieurs les présidents de chambre, monsieur le Premier Président.
L'audience est ouverte. Je vous invite.
Nous avons une grande mission d'études et de recherche, une mission d'appui aux magistrats de la Cour qui s'est beaucoup étoffée. Le SDER, le service de documentation des études et du rapport de la Cour de cassation, est un service ancien qui date de 1947.
Sandrine Ziantara, directrice du service documentation.
Depuis ces dernières années, les missions de ce service ont considérablement évolué et cette évolution est révélatrice des transformations de la Cour dans sa manière de concevoir son rôle et de dire le droit. Cela permet à la Cour de cassation de juger un problème vraiment dans sa globalité, en ayant pleinement connaissance de la jurisprudence des tribunaux judiciaires et des cours d'appel et de la manière dont ces juridictions, sur une question de droit nouvelle, commencent à répondre à la problématique et à construire un raisonnement juridique. La deuxième mission du service, après cette mission importante donc d'études et d'appui, c'est la mission de diffusion de la jurisprudence. Et cette mission, qui là encore est une mission traditionnelle, a en réalité complètement changé de nature et d'échelle avec la diffusion des décisions en open data. Le choix qu'a fait le législateur en France est de diffuser toutes les décisions sans les sélectionner, quel que soit leur intérêt, dès lors qu'elles sont rendues publiquement.
Nous aurons à nous interroger sur l'action en responsabilité engagée contre un notaire à la suite d'un redressement fiscal.
Le SDER maintenant héberge en son sein un observatoire des litiges judiciaires. Cet observatoire a pour mission de recueillir des informations pertinentes concernant les contentieux émergents, de sorte que la Cour de cassation sera en mesure plus rapidement de donner des éléments de solution aux questions de droit nouvelles. Et c'est par exemple le sujet de la PMA post-mortem, où l'insémination a eu lieu alors que, en l'occurrence, le père était décédé. On a été avisé par une juridiction de ce qu'elle avait rendu plusieurs décisions en matière d'enfants nés après une PMA post-mortem, à la fois sur l'établissement de la filiation et sur les questions successorales.
Chers amis de la Cour, le rapport le rappelle, les avis des avocats généraux le soulignent. L'article 2224 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, vise à assurer la cohérence.
La Cour de cassation a pour rôle d'unifier l'interprétation du droit sur l'ensemble du territoire. Cette unification ne peut intervenir que si les juridictions du fond respectent cette interprétation. Il serait anormal et contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi qu'une cour, la Cour d'appel de Toulouse interprète le droit différemment de ce que fait la Cour d'appel de Douai, par exemple. Donc il est nécessaire qu'il y ait cette uniformisation.
L'affaire est mise en délibéré. L'arrêt sera rendu le vendredi 19 juillet à 14h par mise à disposition au greffe. L'audience cesse d'être publique.
On dit que les juges du fond aussi, parfois, ils peuvent être un peu rebelles face à la Cour de cassation. Mmh. Qu'est-ce que ça signifie, ça ?
C'est justement l'hypothèse dans laquelle les juges du fond ne vont pas suivre l'interprétation de la Cour de cassation. Lorsque la Cour de cassation s'est prononcée sur une affaire de GPA, par exemple, elle a fixé sa jurisprudence. Et dans d'autres affaires de GPA, les juges du fond ne vont pas suivre l'interprétation qu'elle a donnée. La Cour européenne des droits de l'homme estime qu'il n'est pas anormal dans un système juridique, par moment, d'avoir des divergences de jurisprudence. Parce que l'interprétation, vous l'aurez peut-être compris, l'interprétation, c'est beaucoup une question d'argumentation. Et d'argumentation où souvent il y a vraiment deux possibilités qui sont toutes les deux très juridiquement fondées. Donc on peut avoir des divergences qui opposent deux interprétations, toutes les deux rationnelles et juridiquement fondées. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, c'est-à-dire si la Cour de cassation fait le choix de réaffirmer cette position, il faut que les juges du fond, au bout d'un moment, mettent fin à leur divergence. Et je crois que c'est globalement ce qui se passe, même si je vous le redis, ça n'est qu'une croyance, pas une vérité scientifique, pour l'instant.
On a dans cette grande chambre de la Cour de cassation une partie qui est ce qu'on appelle l'atrium, qui est l'endroit par lequel arrive le public pour assister à certaines audiences de la Cour de cassation. Et vous voyez qu'au-dessus de l'entrée, au fronton de cette entrée, vous avez une formule. Il y a pour toute la République une Cour de cassation. Cette formule n'est pas une simple formule, c'est une disposition du Code de l'organisation judiciaire pour veiller à l'unité de la jurisprudence.
Le combat, entre guillemets, que notre famille a mené...
Fiorella Menson.
C'est un combat pour justifier l'existence de ma sœur et moi, et du coup de notre filiation. Pendant longtemps, nos parents, évidemment, ont fait ce que tout parent aurait fait, c'est-à-dire qu'ils nous en ont protégés. Mais en même temps, on ne peut pas être 100% protégé, en fait, de quelque chose qui remet en question notre existence même. Quand on est un enfant et même un adolescent, qu'à l'école, on est en train de nous expliquer, justement, on nous présente les différentes institutions de justice qui sont censées nous protéger, nous, en tant que citoyens de la France. Mais d'avoir, nous, cette expérience, en fait, d'une justice qui n'est pas juste, c'est très difficile de croire en ce qu'on cherche à nous enseigner. Et je crois que, même aujourd'hui, c'est bizarre de ce moment de se dire, c'est fini ? Est-ce que c'est vraiment fini ? Est-ce que c'est une fausse victoire ? Est-ce qu'on va encore tenter de nous retirer quelque chose ? Est-ce qu'on est si libre que ça ?
Le combat des libertés, il prend du temps. Voilà. Il doit être initié devant des juridictions. Il nécessite d'aller jusque devant la Cour de cassation et le Conseil d'État, donc les dernières juridictions possibles dans notre système français. Ce qui prend au bas mot, en général, 3, 4, 5, 6 ans. Et après, il faut, si vous n'avez pas obtenu satisfaction dans les juridictions françaises, aller jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une juridiction qui a pour volonté de garantir de façon très stricte les libertés fondamentales, mais qui est débordée, qui est victime de son succès. Et donc, un dossier devant la Cour européenne des droits de l'homme va prendre 3, 4, 5 ans. Donc, entre le début de votre procès et une éventuelle condamnation devant la Cour européenne des droits de l'homme, il faut compter facilement 10 ans. Et ce temps-là, c'est le temps du droit, le temps de l'accession définitive à des libertés, il est très dur pour les justiciables. Et souvent, pour pouvoir l'accepter, il faut qu'ils soient aidés.
C'était « Les gardiens du droit », une série documentaire de Cyril Marchand, réalisée par Véronique Samouilov. Premier épisode, « Juger le droit », la Cour de cassation. Merci à Philippe Galanopoulos, Christophe Soulard, Sandrine Ziantara, Pascal Demier, Liora Israël, Dominique, Sylvie et Fiorella Menson et Patrice Spinozzi. Lecture, Lison Binet. Merci à Guillaume Fradin, Elisabeth Pichon pour leur accueil à la Cour de cassation, aux éditions L'Extenso et à Mathieu Fèvre-Issali, chercheur. Prise de son, Michael Simon et Nicolas Depagraf. Mixage, Manu Couturier. Chargé de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Prochain épisode, juger l'administration, le Conseil d'État.